Et bonsoir à tous, bienvenue dans Paris Central. On se retrouve ce soir avec Gâteau. On s'excuse un peu du retard pour des petits problèmes techniques. Comme vous l'avez constaté, ben je vais plus évoluer sous le même matos. Maintenant, c'est fini l'iPhone 8, c'est fini l'iPhone 12, c'est fini le setup un peu bizarre avec des écouteurs branchés sur un multiprise branché sur un adaptateur iPhone. Maintenant, on va faire en sorte de faire un peu des efforts. Et on se retrouve maintenant après une victoire flambante du Paris Saint-Germain 3-1, si on peut le dire ainsi. Du progrès quand même, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi, Gâteau, pour commencer?
Écoute, mon cher tonton, déjà j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, très heureux que tu aies ton setup. Ouais, je retiens quoi de ce match-là? Honnêtement, moi je retiens déjà la solidarité. Encore une fois, on voit de la solidarité entre les joueurs, qu'il y a du dépassement de fonction et qu'il n'y a pas de joueur qui est à l'abandon. Donc on a vu que des joueurs que ils sont pas forcément tous à l'aise encore, puisque c'est encore une équipe qui est en rodage, mais on a vu une solidité défensive et ça j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, sûrement?
Et ça tombe bien, justement, ça fait partie des parties dont on parlera dans ce live. Justement, comme tu dis, Cédric, ben, cette équipe, on va pas se mentir, elle n'est pas des plus flambantes dans le jeu. Il y a quand même du progrès à chercher encore. Il y a des automatismes à chercher. Il y a beaucoup de recrues qui sont alignées titulaires. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes à tirer de cette équipe. Je vois pas mal de joueurs qui apparaissent dans le chat. On va parler sûrement de ces joueurs dans les parties des top et flop notamment. Et pour commencer, justement, je trouve que tu as bien fait d'amener le sujet. Je te propose qu'on commence par parler de la solidité défensive du Paris Saint-Germain, qui concède de moins en moins d'occasions. Et sans ce but un peu dommage, on va dire pour être poli, que tu encaisses à la dernière minute, tu peux te retrouver encaissé que un seul but en 3 matchs. Et ça, c'est une réelle qualité que tu as dans ce Paris Saint-Germain que tu n'avais pas sous Christophe Galtier. Qu'est-ce que tu en penses?
Surtout que Lens, c'est une équipe qui a cherché quand même à attaquer. C'est pas une équipe qui est restée juste derrière pour contrer et puis essayer de trouver la moindre faille, la moindre erreur. Parce que dans tous les cas, il y a des erreurs. Dans tous les matchs, même si c'est toi qui as la balle, tu as des erreurs. Lens a essayé. Le but, c'est un but maladroit, malheureusement. Mais c'est pas un but, bah ouais, comme QD le dit, c'est un but malchanceux. C'est pas un but qui est. Vraiment, où tu t'es fait dominer sur une séquence, un bon centre, puis une passe en retrait, un bon truc. Non, c'est vraiment de la malchance. Et puis, on a vu que défensivement, même les attaquants, alors, ils ne vont pas forcément tous défendre, mais le placement fait que. Et ça gêne des circuits de passe, ou bien ça ralentit, ça allonge, pardon, les distances, parce qu'ils sont obligés de passer par autre part, les défenseurs lensois, la première relance. Donc ça nous a permis au moins de conserver déjà de l'énergie pour pouvoir après attaquer au plus vite ce qu'on a vu par la suite.
Justement, tu fais bien d'en parler de cette équipe. L'an dernier, on se plaignait pas mal du 7 plus 3. On avait l'impression que l'équipe était coupée en deux, qu'il fallait demander à Neymar presque de se sacrifier pour revenir faire le pressing à la place de Mbappé et Messi, qui de toute manière n'allaient pas participer. Et là, au contraire, tu as l'impression que cette équipe, elle est organisée offensivement d'une certaine manière, et elle est également organisée défensivement d'une autre. Et dans cette autre manière de défendre, tu as un espèce de 4-4-2 où tu vois que seuls Asensio et Mbappé sont un peu plus haut sur le terrain. Et au final, Asensio décroche. Donc au final, finalement, le problème des trois qui ne défendent pas, bah, tu l'as réduit à un seul joueur. Et à ce moment-là, ça facilite quand même la tâche. Et justement, au niveau comment dire, du dispositif offensif, tu te rends compte que l'équipe, elle est très amovible. Le schéma, il est mobile. Et t'es pas sur un 4-3-3 fixe. Sur les phases offensives, bah des fois, selon les moments, ce sera soit Lucas Hernandez, soit Ugarte qui va rester dans la ligne de défense à 3 entre Skriniar et entre Marquinhos. Et ça va permettre du coup à cette équipe de pouvoir alterner selon les phases de jeu. Lucas Hernandez, bien qu'il participe à la défense à 3 selon les phases de jeu, il termine le match avec une passe décisive. Il aurait même pu s'en payer une deuxième si Asensio ne rate pas sa tête. Donc oui, justement, bah, cette solidité défensive, on va dire qu'elle est rendue aussi possible bah, par la mobilité de son schéma ou... Le schéma n'est pas prévisible non plus.
Ouais, parce que le 4-3-3, c'est sur le papier. Comme tu l'as dit, c'est sur le papier. Après, c'est très mobile. On a vu quand même, bah voilà, Asdingue nous dit ça, que ils sont polyvalents. Et ça nous permet donc d'avoir des solutions multiples. Parce que tu peux avoir plusieurs fois la même solution, mais au bout d'un moment, l'adversaire déjà te prend à ton jeu. il t'étudie aussi, parce qu'il y a des gens qui font l'analyse vidéo. Faut aussi en profiter parce qu'on est en début de saison et les gens ne savent pas ce qu'on va faire. Nous-mêmes, les supporters, ne savent pas, nous ne savons pas ce que le club a mis en place. Ce nouveau centre d'entraînement, pas mal de choses, ce qui permet peut-être de travailler plus en profondeur. Il y a pas mal de tactiques mises par le coach qui peuvent être établies. Et ça nous permet aussi d'avoir des joueurs qui sont plus en confiance. En tout cas, aujourd'hui, on le voit. C'est le troisième match. Il fallait quand même réagir. Parce que c'est vrai que si on n'avait pas gagné aujourd'hui, même un match nul, c'est à domicile, on veut bien contre Lorient, premier match, il faut que les gens se mettent. Voilà. Mais un troisième match sans victoire dans une Ligue 1-18, ça aurait pu poser problème. C'est parfait parce que aussi, Monaco aussi, dont hier n'a pas forcément été chanceux face à Nantes, rappelons-le. Donc voilà, non, moi cette équipe en tout cas, elle m'a plu aujourd'hui, défensivement, mais aussi, on va reparler évidemment des individualités, n'hésitez pas à en parler en commentaire, mettez bien vos top et flop parce qu'il y en aura pas mal.
Bah justement, alors dans les commentaires, on nous parle de Lens. J'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que cette équipe de Lens était moins forte que l'an dernier, parce qu'il y a une réalité, ça a perdu des joueurs comme Openda et comme Fofana. En revanche, bah, tu as quand même le même coach,
Oui.
tu as quand même la même base, même s'il faut rajouter aussi que leur calendrier de début de saison est très compliqué, que c'est ils vont jouer la Ligue des Champions par-dessus ça. Le Paris Saint-Germain, bah, eux, tu es sur un nouveau cycle. Comme je disais, tu as beaucoup de titulaires quand même qui sont des joueurs qui viennent d'arriver, comme Ousmane Dembélé, comme Marco Asensio, comme Ugarte, comme Lucas Hernandez. Et finalement, c'est des
Bah,
joueurs, bon.
c'est limite mieux pour le Racing Club de Lens de jouer le Paris Saint-Germain là, avant, dans 15 jours avant la Ligue des Champions. Tu te dis, bon, t'as perdu parce que vas-y. Voilà. Mais quand tu vas jouer un samedi plus, salut Recoba, notre frérot qui ne peut pas nous rejoindre. Les gens, ils sont en vacances, ils sont trop bien pour nous. Non, mais franchement, quand ils vont jouer la Champions League, quand ils vont jouer soit le mardi ou le et alors, jouer le samedi. Les gars, ils ne sont pas habitués à ça. Donc, ça va être difficile pour eux. Ils vont se retrouver un samedi, un jour, je ne sais pas, ils vont jouer contre Marseille, ils vont jouer contre quelqu'un qui va pouvoir avoir des difficultés. Non, parce que comme les Coupes d'Europe, Marseille aussi joue l'Europa League, ils ne peuvent pas se retrouver un samedi. Mais en tout cas, ils vont trouver un adversaire, par exemple, qui ne joue pas de Coupe d'Europe, type Monaco. Ça peut être difficile. Donc, autant prendre le Paris Saint-Germain maintenant, c'est mieux peut-être pour eux.
Que de se taper justement comme tu as dit dans cette période qui va être un sacré rush, ouais. Et justement, il y a un autre sujet qui me vient en tête aussi, que j'avais pas forcément pensé à te parler avant qu'on commence ce débrief, mais ça reste quand même le premier but du Paris Saint-Germain dans le jeu au moment où Marco Asensio marque en première mi-temps. Premier match, on n'a pas marqué, le deuxième, le but est sur penalty, et là tu as quand même bah, trois buts dans le jeu au final, donc il y a quand même de la progression. Je sais pas ce que tu en penses au niveau offensif. Peut-être que le fait que Dembélé, Mbappé étaient titulaires d'entrée, ça a peut-être changé des choses aussi.
Mais en fait, c'est deux poisons. Deux poisons parce que, et surtout Dembélé, bon, Mbappé, c'est prévisible, mais c'est quand même très difficile de l'arrêter parce que t'as pas les qualités pour. À part si tu fais un 3 sur 1 sur lui, bah, même là, il peut s'en sortir parce qu'au bout d'un moment, 3 sur 1, tu te concentres sur lui, mais t'auras toujours d'autres joueurs de qualité. Tandis que là, tu as deux joueurs en même temps qui n'ont pas forcément le même profil. L'autre qui est beaucoup plus dans la vitesse et dans la profondeur, et l'autre qui est plus un peu plus aussi dans la vitesse, un petit peu moins quand même, mais dans le contrôle. Et le pire, c'est que c'est un ambipède, ambidex ou ambipède, comme vous voulez. Il peut aller extérieur, centré, extérieur, revenir, tirer. Ou il peut aller intérieur, décalé, comme on l'a vu sur la frappe de Kylian Mbappé en première mi-temps et l'arrêt de Brice Samba. Donc il y a des solutions multiples. Les défenseurs, je pense que cette saison, ils risquent de voir flou. D'autant plus qu'il y a du banc qui pourrait être là. Il y a des Asensio, tu vois, que tu as eu sur l'aspect offensif. Les gens se posaient quand même des questions, mais dans l'axe, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Il a proposé des solutions. Et surtout, son but. C'est venu d'une succession de passes, d'une accélération, d'une rupture, un retour et une frappe, une belle frappe quand même. Franchement, c'est bien pour la suite.
Après, ouais, Ousmane Dembélé, c'est 7 dribbles tentés ce soir. Bon, 2 réussis seulement, mais comme tu dis, c'est quand même un mec qui provoque énormément. Et ça rend la tâche très, très difficile quand même. Et Mbappé, de l'autre côté, il n'a pas le même profil. C'est un mec, comme tu dis, il est plus buteur. Et bah, ce soir, il a encore montré, hein, il met un doublé. Dembélé, à l'inverse, Bah, il a montré que le réalisme, c'est pas son truc. Il te montre que lui, il est vraiment dans la magie, dans l'élimination de joueurs. Par contre, il a encore ses problèmes de finition qui lui collent encore un peu au basque. Et maintenant,
Ouais, mais
justement,
on a
comme.
un coach qui doit aussi faire progresser les joueurs. Donc c'est, on l'oublie souvent, mais un coach aussi, sa première mission, c'est de faire progresser les joueurs. Ah oui, c'est sa mission première. C'est pas juste de faire diminuer la pression, de mettre, concentrer la pression sur soi. Donc voilà, on va pouvoir utiliser ça, ce sera bien.
Alors justement, je te propose maintenant qu'on embarque sur la deuxième partie avant de faire les top et flop, parce que je vois qu'on nous sollicite beaucoup pour nous demander notre avis sur certains joueurs. Et ne vous inquiétez pas, on répondra à vos questions après les parties et les top et flop comme d'habitude. Dans cette deuxième partie, justement, on allait parler de cette équipe qui est encore en rodage, mais qui est quand même en progrès. Comment tu pourrais l'expliquer avec tes mots, Gato?
Bah, une équipe qui est encore en rodage, mais quand même en progrès. Déjà, une équipe qui a su marquer. Voilà. Qui a su trouver des solutions face à un bloc qui n'était pas forcément bas, mais un bloc qui était quand même compact parce que tu as quand même une défense à 3 et un très bon gardien en face. En progrès parce que tu as des joueurs qui commencent à se connaître. Les qualités de l'un sont connues par les autres. Ougarté, on sait que c'est un gars qui va plutôt être dans la récupération du ballon, où ce sera très difficile de lui prendre la balle, et il va pouvoir lancer. C'est pas lui qui va être à la première grande relance, mais il va relancer petit pour qu'on puisse après aller de l'avant avec Vitinha ou Zaïre Emery. Et mine de rien, bah, tu as des gens aussi qui commencent à prendre confiance. Ah bah peut-être que j'avais des qualités que je ne savais pas, mais en discutant avec le coach, et voilà. Il y a une préparation complète où les gars, comme toutes les personnes du milieu de terrain étaient déjà là. Quand ton milieu de terrain marche mieux, forcément, ça va mieux. Après, tu as des gars aussi qui, devant, ils sont exceptionnels. Mbappé, c'est un joueur exceptionnel. On l'aime ou on l'aime pas. Moi, ces temps-ci, c'est vrai qu'il m'avait un peu énervé, mais ça reste un joueur exceptionnel. Et c'est pas forcément, bon, les gens diront le meilleur joueur du monde ou pas, ça je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, c'est le meilleur contre-attaquant du monde, ça y a rien à dire. Et puis, quand tu as des gars aussi qui ont eu des expériences de grands clubs, comme Dembélé, comme aussi Asensio, pas forcément des gars qui ont été des grands gens importants dans ces clubs-là, mais qui ont eu des moments et qui ont l'expérience de grands vestiaires aussi, qui ont côtoyé des grands noms. Et pas ça peut apporter à chaque fois sa pierre à l'édifice. Surtout, c'est chapeauté par Luis Enrique qui semble pouvoir travailler tranquillement. Donc, au bout de 3 journées, on a vu de l'amélioration. C'est vrai que sur le terrain, tu ne pouvais pas avoir la magie tout de suite. C'est bien parce que c'est une Ligue 1 à 18 clubs, je le rappelle. Et il faut prendre des points rapidement et à domicile, devant un public aussi qui a poussé. C'est intéressant.
Alors merci Alex en tout cas pour le don, mais du coup je t'avoue que comme on fait le live direct en sortie de match, on n'a pas forcément le temps de voir les réactions d'après-match, on les regarde en général après le live, mais si tu as des détails, n'hésite surtout pas à dire dans le chat. Mais oui, pour continuer sur ce que tu dis, c'est une équipe qui de toute manière est sur un nouveau cycle, on vient encore de changer d'entraîneur, on va pas mentir, on s'est pas régalé dans le jeu sous Pochettino et Galtier à la suite. Là, on est sur autre chose. Je préfère justement, comme je disais précédemment, une équipe qui monte crescendo, qui prend un peu de temps, qui galère un petit peu au début et qui progresse dans le temps, plutôt qu'une équipe qui a l'air d'être super prête au moment de la tournée de pré-saison où les joueurs en fait prennent leur temps pour reprendre, que tu redémarres en bombe et que derrière tu régresses de mois en mois en fait. Donc du coup, là, j'ai l'impression qu'au contraire, tu as certains joueurs, du fait de l'arrivée de Luis Enrique, du changement de style de jeu, ils ont l'air plus dans leur élément. Et je pense qu'il y en a un, ça s'est particulièrement vu ce soir, et c'est assez facile de deviner duquel je parle. Mais ça va nous venir et nous mener à cette rubrique un peu des top et flop, justement. Donc pour toi, Gato, et aussi les personnes présentes dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester, tout comme ceux qui regardent en rediffusion. C'est qui vos top pour vous de ce match? Je te
Top,
laisse commencer,
bon,
Gato.
oui. Évidemment, il y a Kylian Mbappé, il a mis 2 buts, il a été intéressant sur son aile gauche, il a pu provoquer, gagner des mètres et étirer la défense. Et quand tu prends ce joueur-là, il va aller de l'avant, ça permet à tes joueurs de remonter le bloc et de pouvoir après refaire un contre-pressing ou dès la perte de balle, en tout cas être agressif. Donc ça, Kylian Mbappé, il est dans les tops, évidemment, il y a une grosse activité, il a marqué 2 buts. J'ai aimé aussi Lucas Hernandez. parce qu'il a délivré une passe décisive et il a été intéressant. Il a été assez proche, même il a fait une faute sur Sotoka, ça a été sifflé faute par le Texier, l'arbitre du soir, mais je ne pensais pas qu'il y avait faute. Et puis quand je regarde, je dis en fait, il est un peu dans le vice, mais ça ne se voit pas trop. Et j'aime bien sa combativité. Il l'avait dit, et l'autre fois, j'ai encore répété, il avait dit à sa présentation qu'il allait faire, qu'il allait être combatif. Il est combatif, et ça, c'est tout bon pour nous. Maintenant aussi, le dernier, j'ai quand même aimé Asensio aussi. Franchement, Asensio aujourd'hui, même si sa mobilité, ce n'est pas la meilleure, on sait que ce n'est pas un vrai neuf, c'est un faux neuf aujourd'hui. Il a marqué, il a permis aux gens de respirer parce que ça aurait pu basculer à 1-0 peut-être pour Lens à un moment aussi, on ne sait pas s'il n'ouvre pas le score. Et ça permet aussi de libérer un peu le poids de la défense qui a dû s'ouvrir dès quand tu concèdes le score. Après, tu dois pouvoir remonter. Donc voilà mes trois. J'aurais pu en mettre d'autres, c'est vrai, comme Ugarte. Maintenant, on commence à avoir l'habitude, mais j'ai voulu souligner le travail offensif ce soir.
Je comprends et ça me permet aussi d'avoir des tops différents des tiens et de ne pas répéter tes mots. C'est pas plus mal aussi. Il y en a un que j'ai pas vu en tout cas ni de toi ni des personnes dans le chat et je suis pas déçu non plus mais un peu étonné. Je vais le mettre en premier du coup parce qu'on lui a suffisamment tapé dessus ces dernières semaines et même l'année dernière. J'ai forcément évoqué Vitinha qui pour moi fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs au PSG si ce n'est le meilleur match. Très disponible, mobile. Tout le temps en mouvement, il s'est projeté vers l'avant. Il a fait ce soir ce qu'on attendait de lui, en tout cas au Paris Saint-Germain. Et si tu compares aux prestations qu'il faisait au milieu de terrain l'an dernier, ben moi je le mets clairement en top. En deuxième top, ben moi j'ai envie de mettre Manuel Ugarte, même si ça commence à devenir un peu une évidence depuis le début de la saison. Il a été dans les tops à chaque match, en tout cas en ce qui me concerne. Mais quand tu vois l'activité qu'il a au milieu de terrain, sa manière d'être méchant, de faire peur. Et au final, de ne pas être aussi dégoûtant ballon au pied que ce que certains pouvaient penser, ben, tu dis que recruter un numéro 6 de cette qualité-là, aussi jeune, ben, ça te permet de savoir que ce mec va encore progresser, notamment ballon au pied et sans ballon. Et en plus de ça, c'est une vraie terreur. Et tu peux le combiner justement avec Lucas Hernandez et Skriniar. Et là, tu peux avoir un vrai trio de méchants dans lequel, si tu es numéro 9, tu n'as pas envie de traîner. Et en dernier top, ben lui par contre, je l'ai en commun avec toi, ben j'ai envie de mettre Lucas Hernandez parce que dans son rôle, il est censé avoir un rôle hybride. Il est défenseur dans la défense à 3 selon les moments. Il intervertit ce rôle avec Ugarte. Et également, il peut se projeter offensivement. Et comme je le disais précédemment dans le podcast, il a fait une passe décisive en deuxième mi-temps. Et il aurait même pu en faire une deuxième si Marco Asensio avait eu un petit peu plus de réalisme devant le but. Donc, c'est un mec qui est serein défensivement. Et d'ailleurs, bah, tant qu'il est sur la pelouse, on ne prend pas de but. On prend un but quand Lucas Hernandez est sorti. Donc, c'est un pitbull défensivement. Il commence à avoir de l'apport offensivement. Ben, finalement, l'absence de Nuno Mendes, on se rend compte que ben, on n'est pas tout à fait à poil. Et c'est quand même assez rassurant quand tu vois que l'an dernier, ses remplaçants, c'était Juan Bernat, Kurzawa quand il n'était pas prêté. Donc, forcément, je me dis que je suis très content de ce type de recrue en tout cas. Tu voulais peut-être
Ouais.
ajouter quelque chose, Gato.
Ouais, non, je suis content de ce type de recrue. Et puis surtout, on sent qu'on a un collectif qui commence au moins à émerger. Ça, c'est intéressant. Voilà, on a pas juste une ou des forces en attaque et après on doit se débrouiller. On a plusieurs petites forces un peu partout sur le terrain. Et ça nous permet de quand même avoir plusieurs dangers possibles pour l'adversaire.
Alors. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'en mention, on aurait pu mettre certains autres joueurs parce qu'il y a des noms que je vois beaucoup revenir dans le chat, notamment Warren Zaïre-Emery qui aurait pu avoir sa place dans le top aussi. J'aurais pu le comprendre, je ne l'ai pas mis, mais on a droit d'en mettre trois. Chacun met ce qu'il veut. Moi, j'en mets trois. Gaton met trois dans le chat. Vous êtes libre de mettre les vôtres. Et j'allais vous demander s'il y a des flops, vous pouvez aussi mettre côté Lensois. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre côté Parisien si vous n'en trouvez pas. Gato, tu penses à qui si je dois te dire les flops du match pour toi?
Franchement, côté Lensois, j'ai pas. Bah, moi, je sais pas. Abou Samed s'est blessé le pot. J'ai pas envie de le mettre dans les histoires. Diouf, sa frappe, elle m'a gêné un petit peu. Brice Samba, il s'en prend trois.
mais il n'est pas mauvais.
Il n'est pas mauvais, le problème, c'est que tu t'en prends trois, c'est un peu à cause. Bon, Danso aussi, c'était énervé un moment. On sent que ça risque d'être difficile sa saison pour lui. Moi, je vais mettre le collectif de Lens parce que j'ai pas envie de mettre un nom ce soir, franchement. J'ai pas de nom spécifique. Et puis, franchement, non, non, tout le monde a fait un bon boulot. Même Lens, dans sa défaite, c'était quand même propre. Donc, je vais mettre juste le collectif parce que t'es fait transpercer trop de fois par Mbappé et t'as pas su le reprendre. Voilà.
Ouais, j'entends, j'entends. Moi, au niveau de mes flops, si je devais en mettre, est-ce que j'en ai côté parisien déjà pour commencer? Pas forcément côté parisien, côté lensois. J'avoue que Machado s'en tire pas mal quand même, notamment par son nombre de fautes très 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 élevé. Comment qu'il s'appelle aussi? Le Sotoka? Il a été assez bon offensivement, mais en même temps. Je pense qu'il aurait peut-être pu apporter plus, même si c'était compliqué pour lui dans ce match. Et après, je ne vais pas mettre de flop en plus pour forcer à en mettre un. Je vais rester à deux pour ce soir en tout cas. Et ça va être justement le moment, maintenant qu'on a terminé notre session solo à parler dans le vide. On va maintenant justement répondre aux questions. On va vous laisser 10 petites minutes
Ouais.
justement dans le chat si justement vous avez des sujets
Un
qu'on n'a pas
tout
abordés.
petit point.
Vas-y.
Mention honorable à Fabian Ruiz, quand même, qui a fait une entrée intéressante. On le
Base décisive
fustige pas
d'ailleurs.
mal. Il a délivré une passe décisive. On le fustige pas mal. Bon, c'est pas son profil, mais il a quand même essayé d'accélérer et passer par les côtés. On le fustige pas mal. Donc quand il fait des trucs bons, des trucs bien, faut le dire aussi.
Je suis d'accord avec Jojo Barr. J'ai beaucoup aimé les matchs de Ginola, Weah, Guerin et Rai aussi, mais on ne peut mettre que trois tops, donc à un moment, il faut qu'on fasse des choix. Mais justement, ouais, il y a Fish Aikin dit Warren Zaïre-Emery montre un peu son âge, je crois qu'il nous faudrait tout de même un profil un peu plus physique. Bien sûr, après, on a un peu cet emballement quand on parle de joueur parce qu'il est formé au club, il est performant assez jeune quand même, il apportait des garanties l'an dernier dans un milieu qui n'en apportait pas, mais il faut rester quand même assez mesuré. Il doit jouer pour moi une quarantaine, cinquantaine de matchs dans la saison, mais il doit pas être forcément une solution de départ, je te rejoins là-dessus. Mais dans le marché actuel, ça semble compliqué de recruter le fameux milieu de terrain qu'on a l'air d'avoir. Et si je me fie au match de ce soir, je te dis pas que tu peux faire 60 matchs avec ce milieu de terrain, mais le milieu de ce soir, il m'a plu en tout cas, le milieu avec Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Ugarte. Je sais pas ce que t'en
Ouais,
penses toi
parce
justement, Gato.
que c'est vrai qu'on sent que sur les gros matchs, ça pourrait peut-être être un petit peu léger, mais ça va encore pour le moment, il n'y a pas de pépin à se faire. C'est vrai qu'il faudrait peut-être assurer le milieu de terrain, amener peut-être quelqu'un d'autre, pour au moins déjà faire la concurrence saine, parce que là, tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui se dégage et ça risque d'être dangereux sur toute la saison. Donc il y a de quoi faire, encore un petit coup sur le mercato. Mais non, il progresse doucement. Et c'est pas parce qu'il est toujours titulaire qu'il n'est pas dans une progression. Il faut lui faire un petit escalier, match par match, tranquillement, et puis ça ira, je pense.
Non, bien sûr, après, c'est le principe de la concurrence. Et tu mets les joueurs en concurrence et le meilleur à l'entraînement dans la semaine joue le match. Et si le joueur en question, c'est Warren Zaïre-Emery, 17 ans, tant mieux pour lui, tu vois, qu'il prenne du temps de jeu. Alors. Déjà, je vois évoquer Anelka formé au PSG. Zaïre-Emery, c'est le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à marquer. Plus jeune qu'Anelka, il me semble. À vérifier. Mais il me semble que dans la stat, ça avait été dit qu'il avait été plus jeune que Anelka quand il marque. Ouais, ça parle beaucoup de Ugarte dans le match, dans le chat en tout cas sur ce match, et je l'entends. C'est littéralement le genre de milieu qui nous a manqué l'an dernier pour avoir plus de sécurité offensive. Et écoute, même si on a un an de retard, vaut mieux tard que jamais. Qui voyez-vous en recrue potentielle au milieu? Ça, c'est une question intéressante. Gâteau, je te laisse répondre.
Après, Fabien, qu'est-ce que tu veux dans ton milieu? Tu veux quelqu'un qui puisse aller créer le jeu, aller de l'avant, un type milieu offensif, un 8, ou tu veux un 6, quelqu'un aussi d'un peu plus puissant physiquement que les joueurs qu'on a? Tu peux aller encore chercher un Rabat, la Fiorentina a baissé le prix, tu peux encore aller chercher Sangaré du côté du PSV, il faudrait peut-être se dépêcher parce qu'ils risquent de se qualifier en Champions League. Ils ont encore la confrontation face aux Rangers. Il y a qui d'autre encore au milieu de terrain? Mohamed Kudus vient de signer du côté de West Ham, c'est dommage. On pourra peut-être se rendre une vidéo sur ça demain, pourquoi pas, peut-être, mais ça dépend de ce que tu veux. Il y a encore des joueurs, il y a encore des joueurs, il y a encore des personnes à qui on ne pense pas, mais il y a encore des joueurs. Il y a peut-être Florian Wirtz, Dani Olmo, il y a son nom qui traînait. Donc, non, non, il y a pas mal de personnes.
En soi, justement, je pense que tu as la question. Je ne dis pas qu'elle a été mal posée, mais je pense que c'était clair dans sa tête. Mais quand il a écrit dans le chat, malheureusement, on ne lit pas dans sa tête. Donc, s'il nous avait dit qu'il voulait un milieu plus offensif, plus défensif, la question n'est pas la même. Parce que bah, on entend parler de Sangaré qui pourrait être une concurrence à Ugarte. Et ça te permet que si Ugarte, à un moment, il prend un peu trop de jaunes, parce que ça peut arriver qu'Ugarte, il accumule des jaunes et que du coup, il y a un match de suspension, tu serais content d'avoir un Sangaré. Ou même bah, le fait de le concurrencer, bah, peut-être que Sangaré serait meilleur qu'Ugarte dans ce PSG, on ne sait pas. Si c'est un profil offensif, ouais, je vois beaucoup la piste Dani Olmo dans le chat. Ça veut dire que vous regardez nos vidéos, ça me fait plaisir. Mais non, oui, Dani Olmo, c'est un autre profil. C'est un profil beaucoup plus offensif. C'est un gars que tu peux faire jouer dans le milieu à 3, mais ce sera clairement le plus offensif des 3 et t'as intérêt à avoir un 8 et 6 derrière. Il peut jouer sur l'aile gauche comme meneur de jeu excentré, il peut jouer en soutien de l'attaquant et il peut même jouer faux neuf. Donc on va dire, il ressemble au profil de Bernardo. Mais à l'inverse sur le terrain. Là où Bernardo va jouer à droite parce qu'il est gaucher, Olmo va jouer à gauche parce qu'il est droitier. Mais par contre, Olmo, tu ne mets pas 8 dans un double pivot comme Bernardo. Il est un peu moins bon défensivement que Bernardo, Dani Olmo, on va pas se mentir. Mais joueur très très intéressant en tout cas en ce qui me concerne. Et je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs encore son match avec Leipzig contre Stuttgart, mais il a été très 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 bon encore. Et il crève vraiment le plafond ce début de saison, surtout depuis le départ de Nkunku et Szoboszlai, et ça lui laisse beaucoup plus de place pour s'exprimer en tout cas. Donc, Hassan, tu ne vas pas m'apprendre qui est Dani Olmo. Je suis énormément ce joueur. Alors, pour toi, on va chercher un faux neuf. Alors, je vais même répondre à la question que tu as posée tout à l'heure, Kevin, parce que j'ai vu que tu en avais posé d'autres. Concernant le faux neuf, s'il fallait en recruter un aussi, et la place de Kolo Muani, moi, je pense que Kolo Muani, tu vois, il est recruté pour être en concurrence dans les trois postes. Parce que Kolo Muani peut autant jouer sur l'aile gauche que dans l'axe, que à droite, en tout cas. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, toi aussi, d'ailleurs, Gâteau.
Bah, tu sais, le problème, c'est que un gars qui est polyvalent, un mec qui est bon partout, au final, il peut être bon nulle part. C'est un danger pour les joueurs. Ça, on ne le dit pas assez. Oui, ça va être utile au PSG, mais quand on regarde, est-ce que c'est vraiment utile à lui? Là, avec bon, il y a, je crois, la conférence, ouais, il faisait la conférence avec Francfort. Et quand tu regardes aussi. Historiquement, Didier Deschamps pour la convocation des joueurs en équipe de France, fallait être vraiment très très sûr quand tu joues au PSG. C'était pas tout le temps. C'est pas tout le temps que les joueurs ils pouvaient, voilà. Donc pour lui, j'espère que il va. En tout cas, moi j'espère qu'il va venir. Moi j'aime bien son profil. Je suis pas sûr que ce soit un vrai vrai neuf type, mais c'est un mec qui est mobile et qui peut apporter des solutions. Vu ce qu'on a vu ce soir. Vu ce qui s'est passé, la mobilité des joueurs, le changement de poste, changement de rythme, arrêter, accélérer, s'arrêter, passer de gauche à droite, il peut vraiment rentrer dans ce truc-là. Donc il pourra vraiment venir s'exprimer. Après, tu as quand même Gonzalo Ramos, qui n'est pas une concurrence forcément facile. Et avoir des joueurs de cette envergure-là, sont des joueurs en devenir. Hein. Pour moi, ce n'est pas des joueurs qui sont si confirmés que ça. Ça reste des joueurs en devenir. Ce sont de très bons joueurs déjà. Mais sont pas encore de grands joueurs. Et devenir un grand joueur au Paris Saint-Germain, ça demande aussi pas mal d'efforts. Donc, à voir. Mais moi, je prends absolument.
Et même, j'ai envie de te dire, au final, les profils de Kolo Muani et de Ramos, ils sont plus complémentaires qu'opposables.
Ouais, c'est ça.
Mais
Et puis
justement, je
même,
vois
comme.
d'ailleurs dans le... Vas-y, vas-y, termine.
Non, parce qu'on disait, par exemple, tu vois, tu peux même avoir le luxe d'avoir derrière, au milieu de terrain, Ugarte plus Sangaré dans un double pivot au cas où si tu veux passer dans un 4-2-3 un jour, tu peux mettre Kolo Muani à droite ou à gauche, ou voilà, c'est important d'avoir pas mal de solutions.
Bah justement, alors la question, je vais la remonter, elle était dans le chat. Je vais répondre, alors attends. Alors, ouais, on m'avait dit justement qu'Aramos s'est blessé, il manque d'un vrai neuf, d'un tueur. Le problème aussi, c'est quelles sont les opportunités de marché restantes. On est le 26 août, il nous reste 5 jours. Si tu as ce profil-là et qui est disponible dans nos caisses, je prends, mais ça va être très, très, très compliqué à déloger en aussi peu de temps dans le mercato. Parce que surtout, si tu arrives à trouver cette fameuse perle rare, bah, peut-être que le club en question ne voudra pas la lâcher parce qu'il se dira, bah, si je le lâche. c'est moi qui aurai 5 jours pour le remplacer.
Ouais, bah, ouais, ça c'est compliqué quand tu arrives à ce moment-là aussi, que tu n'avais pas travaillé pour, tu n'as pas anticipé. Bah, forcément, après, tu vas prendre qui? Tu vas prendre des gars qui sont peut-être dans les championnats mineurs. On rigolait, mais en hiver, tu as des joueurs qui auraient pu venir, qui auraient pu rendre des services. Je pense à Vincent Aboubakar. Non, on pouvait rigoler, hein, mais ça aurait pu rendre des services. Tu as Lukaku qui, en peine, qui cherche un contrat parce qu'à Chelsea, il est en galère. Si tu es vraiment, vraiment plus. En odeur de sainteté dans un club et que tu as une chance de venir au Paris Saint-Germain, lui, je pense qu'il dira oui, bien évidemment. Et est-ce que le PSG est prêt à faire Lukaku? Je pense pas. S'il est en grande difficulté, il y a des possibilités, peut-être, je ne sais pas. Mais je préfère aller sur un Kolo Muani, même si Ramos s'est blessé, on peut encore trouver d'autres solutions. Donc faudra bien voir.
Après, de toute manière, c'est à partir du moment où il reste 5 jours sur le mercato, là, quand tu recrutes, il faut que tu recrutes par besoin. Pas en disant, bah, il reste 5 jours, je dois recruter à tout prix. Si Lukaku, dans l'esprit de Luis Enrique, il a justement la légitimité pour jouer dans son équipe et qu'il sait comment l'utiliser, ben, je suis pas contre qu'il le recrute, tu vois. Mais en soi, je suis pas spécialement pour, comme je disais, je préférais d'autres profils. Mais en soi... Qui reste d'autres sur le mercato, c'est ça le problème.
En plus, il nous dit dans le chat qu'apparemment, Lukaku irait vers la Roma.
Ouais, avec
Bizarre, vu la relation qu'il avait avec José Mourinho. Ouais. Bravo.
donc je regarde au cas où s'il n'y a pas d'autres questions, on va dire. Si je vous laisse quand même, je suis pas chacal, je vais vous laisser 30 secondes pour que au cas où s'il y a des questions qui vous viennent. Alors, ah, attends. Quel profil en vrai 10? Vitinha, Verratti? Ben en fait, ça, c'est une réponse, une question à laquelle on a répondu finalement dans la vidéo qu'on a sortie hier, où on disait justement quel devait être le milieu créatif du PSG. Bon, sans trop te spoiler, je disais que pour moi, les deux, c'était plus des 8. Et que ben, Verratti, au final, le problème qui fait que ce ne sera pas un numéro 10, un vrai meneur de jeu, c'est le fait que malheureusement, ben, il ne tire pas au but. Et c'est pas maintenant à 31 ans qu'il va développer ce réflexe qu'il n'a jamais eu auparavant. Et
Et
ce
surtout
manque
que
de...
Verratti, il est bon dans la
Vas-y.
passe longue aussi, mais il fait des fois trop de touches de balle pour libérer le jeu. Le but du 10 aussi, c'est qu'il puisse libérer les ballons vers ses offensifs, ou des fois même des fois de revenir en arrière, mais avec un timing pour que le gars puisse être à l'aise. Pas de lui donner dans un moment où ça va être très difficile de garder la balle. Donc, Marco Verratti a des qualités, on n'est pas en train de dire que c'est un mauvais joueur. Moi, j'ai déjà dit ici que c'était un bon joueur, que c'était pas un grand joueur, mais c'était un bon joueur. Mais en soi, non. Et puis, il faut passer à autre chose. Faut passer à autre chose.
Alors, oula, Talisca, ouais, je vois qu'on va dans les pistes un
Ah
peu
non.
exotiques. Non, mais
Ouais,
après,
en
je peux
Arabie
entendre, tu vois, je veux
Saoudite,
dire,
il.
non, mais le foot n'est pas qu'en Europe, tu vois, je peux entendre, des fois, il y a des joueurs qui sont des bonnes pioches hors d'Europe, même si c'est, des fois, on va pas se mentir, parfois un peu difficile à trouver, tu vois, mais je suis pas non
Ouais.
plus fermé à toute proposition. Je vois Kudus aussi dans le chat, mais ouais, mais Kudus, je crois qu'il vient de signer à West Ham, malheureusement, donc...
Il y a un signe à West Ham,
Je crois que c'est
j'évoquais
fait,
tout à
mais
l'heure.
je crois que c'est fait. Hein, tu vois, j'affirme pas non plus, tu vois, je suis pas dans l'inside, mais ça me
Non,
semble
on n'est pas des
compliqué.
insiders. On voit ce qui traîne sur
Non, non,
les
non.
médias mainstream, il n'y a pas de souci.
Mais est-ce que Kudus aurait pas été le bon coup? En tout cas, le profil aurait été super intéressant au milieu, mais seulement, je pense que le transfert, il me semble. Hein, après, je dis peut-être une bêtise, tu vois, je prétends pas avoir le monopole de l'intelligence dans le foot, mais il me semble qu'il a déjà un accord avec West Ham et que ça va être fait.
Ouais, c'est ça le problème. Ouais.
Quelle doublure pour Hakimi?
Ah.
Ben, il y a déjà Mukiele en fait. Vas-y, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Gato, vas-y.
Ouais, parce qu'ils disent qu'il y a doublure pour Hakimi, mais t'as Mukiele, et puis et bien grâce à Galtier, il y a un seul truc que Galtier a pu faire, c'est que si t'es en grande galère, Unai Emery peut jouer arrière droit.
Ouais, même Mukiele, il peut jouer à ce poste et il a un autre profil qu'Hakimi aussi. Il n'est pas aussi bon offensivement, tu vois. Je vais pas mentir, je vais pas dire que Mukiele, techniquement, c'est Hakimi.
Non.
Restons mesurés, tu vois. Par contre, défensivement, Mukiele, je le trouve, en ce qui me concerne, plus fiable que Hakimi, défensivement parlant.
Ah oui, ah oui, ah oui, clairement.
Donc, pour moi, tu vois, tu as déjà Hakimi, tu as Mukiele, donc du coup, tu as déjà la paire. Pour moi, c'est pas à ce poste-là qu'il faut chercher en priorité. On a fait le 6, on a fait le 9.
Par contre, Hakimi, il faut dire qu'il tire plus et frappe coup du pied que de l'intérieur. Il aurait pu marquer aujourd'hui, je trouve. Il aurait
Moi, à
pu
la
marquer
limite,
aujourd'hui.
si je reprocherais un truc à Hakimi, c'est plus les. Tu vois, genre le penalty qu'il a provoqué et qui est pas forcément nécessaire contre Toulouse la semaine dernière. Et là, je sais pas si tu as vu un moment, genre, il a refait une faute dans le genre à l'entrée de la surface un moment. Et j'ai l'impression que des fois, genre, défensivement, il va faire genre des erreurs qui peuvent être un peu dangereuses, tu vois. Mais je te dis ça vraiment sur les deux matchs qui viennent de se passer, c'est pas une généralité. Mais moi, c'est plus ce truc-là que je lui aurais reproché sur ce match, tu vois.
Non, bah c'est juste aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu marquer. Et puis ça lui fait du bien aussi psychologiquement. T'as concédé un penalty la semaine dernière, tu marques, ça te permet d'oublier ça rapidement. Et puis si tu, en plus, il avait marqué dans il aurait pu ouvrir le score ou il aurait pu mettre le 2-0, ça aurait été bien pour lui, j'aurais été heureux pour lui. Mais qu'il puisse marquer, c'est un gars qui lui doit nous assurer. C'est un joueur de qualité. Pour moi, je le considère comme un grand joueur. C'est un grand joueur. Il a fait des choses intéressantes avec le Maroc. Il faut qu'il nous fasse ça en club. On essaie, moi, je veux
Même
qu'il fasse
avec
ça en
l'Inter et le
club.
Borussia.
C'est ça. Et maintenant, il a un contexte favorable aujourd'hui. Il faut qu'il nous fasse ça parce que c'est un gars qui a des qualités. Il faut qu'il apporte ces qualités-là, notamment sur le terrain.
Non, après, je pense, tu vois, il faut laisser du temps à cette équipe, mais je pense que dans cette équipe-là, ce sera plus simple d'exploiter les qualités d'Hakimi que sous le PSG de Christophe Galtier ou de Mauricio Pochettino, en tout cas.
Oh oui, ça c'est évident. C'est évident. Bon, après, il y a des personnes aussi qui sont parties, qui lui ont. Ça lui permettra d'évoluer dans un environnement beaucoup plus sain. Et j'estime que là, il est dans une équipe qui va pouvoir profiter de ses qualités à fond, non pas le boycotter comme ça a été fait par un certain moment.
Bon, bah du coup, je pense qu'on a quand même un peu fait le tour de ce sujet. Bon, on aurait été plus nombreux et plus réactifs si on avait été plus nombreux. Malheureusement, le reste de l'équipe préfère se dorer la pilule en vacances plutôt que de faire le taf. Donc, on va remercier l'inimitable Gâteau des Bois d'avoir animé ce chat ce soir. Et merci en tout cas à vous dans le chat. Je vois qu'on est 614 en live ce soir. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à mettre un pouce. C'est pas grand-chose, hein, mais ça nous aide beaucoup au référencement. Et je vous rappelle qu'à partir de 750 pouces, on fait un tirage au sort pour offrir un flocage. Ce serait bête de manquer ça. Donc merci à tous d'avoir participé. Et n'oubliez pas, à 10 000 abonnés aussi, il y aura une petite surprise et on n'en est plus si loin. Donc bah, si vous êtes nouveau dans l'aventure, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour plus de contenu PSG. Merci à tous d'avoir participé et n'oubliez pas, ici c'est Paris.